le collectif etc. Ce sont
Pierre,
Anthony,
Benjamin,
Victor,
Olivier,
Florent,
Emmanuel,
Julien,
Cédric.
Il manque Maxence et Kelly qui sont en déplacement. Et Michael qui est aussi en déplacement.
11 jeunes architectes et une graphiste, récemment diplômés, qui ont choisi de passer ensemble un an sur la route pour un détour de France à vélo en 24 étapes. Constatant que les usagers sont exclus des processus d'élaboration des projets d'aménagement, ils mettent en œuvre pour chacune de ces étapes des projets pour lesquels l'implication des citoyens est essentielle. Ils étaient à Marseille en février 2012. La grenouille les a rencontrés.
En fait, on était tous étudiants à l'école d'architecture de Strasbourg, à l'INSA. Et durant nos études, on s'est dit que ce serait bien de voir de quelle manière on pourrait pratiquer l'architecture, quelles seraient les différentes formes qu'on pourrait donner à nos pratiques.
Et de fil en aiguille, en gagnant un concours étudiant, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et que là, on s'est lancé en fait dans ce projet de détour de France.
On s'est placé en marge de nos études, mais dans les études d'archi, on est encore assez distant des modes vraiment administratifs et constructifs de fabrique de la ville. Mais on a fait quand même un pas de côté en se disant qu'on avait envie de se mettre dans la rue et de construire avec des outils qu'on maîtrisait. C'est dans la rue qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt de faire participer les gens, parce qu'en fait, c'est venu à nous. Quand on se met dans la rue, les gens sont curieux, on discute avec eux, il y a des idées qui se partagent. Donc c'est comme ça que cette idée-là de participation est venue à nous. Au début, c'était des petits sujets où on faisait participer les gens sur une petite partie. Après, on a fait des chantiers qui étaient ouverts, donc où on se retrouvait à mettre en place des ateliers pour faire participer des écoles. Puis on se rend compte que ça intéresse d'autres gens, qui intéressent d'autres gens, et on se rend compte un petit peu de l'ampleur de ce que le mot participation implique.
Qu'est-ce qui vous a motivé à ça? C'est une motivation politique, sociale, philosophique, éthique?
On a tous pratiqué le travail salarié dans des agences d'architecture conventionnelles. C'est un des trucs qui nous a poussé à monter ce collectif et à partir sur les routes de France. C'est aussi qu'on s'est retrouvé pas forcément dans ce travail derrière un ordinateur, sans aucun, justement pour le coup, aucun rapport avec les futurs utilisateurs des lieux construits ou des lieux organisés.
Par rapport aux convictions politiques, je pense qu'il y a derrière tout ça un vrai projet donc politique. C'est de dire que nous, notre médium, c'est l'architecture et l'espace public, mais qu'on se sert de ça pour faire en sorte que tout le monde puisse se mettre autour de la table et discuter.
On a aussi rencontré des professionnels qui ont plus de la cinquantaine, qui avaient fait eux-mêmes ces expériences-là dans leur jeunesse et qui étaient un petit peu désabusés en fait, vis-à-vis des pratiques de la participation. Nous, on n'en est pas encore à ce stade-là, on est plein d'espoir et on a l'impression qu'en vivant ces expériences, qu'en les communiquant, on arrive à convaincre de plus en plus de gens et que ça va dans le bon sens.
Je tiens aussi à rajouter qu'on n'arrive pas dans une époque où c'est anodin de parler de ça. Tous les professionnels sentent bien que c'est des questions auxquelles ils doivent savoir répondre. Aujourd'hui, les architectes doivent pouvoir se positionner vis-à-vis de ces questions-là de la participation. Aujourd'hui, c'est totalement absent dans l'enseignement de l'architecture.
Aujourd'hui, apparemment, il y a une association, la Cité des rues, pour pouvoir apprendre aux jeunes à pouvoir fabriquer des chaises avec une simple planche de 2 mètres ou 3 mètres, selon la taille que c'est. Et pas besoin de dire plus exactement. Hein.
Vous habitez ici, vous ?
Oui, j'habite ici, exactement.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée ?
C'est bien, je trouve que c'est bien, surtout pour les jeunes. Hein. Au moins, ça évite qu'ils cassent des voitures, qu'ils font des conneries. C'est bien, je trouve que c'est bien.
Participation, vous en déclinez, vous en distinguez trois formes différentes. Participation passive, participation active, participation créative.
La participation passive, c'est une communication politique qui va seulement dans un sens, en fait. C'est une communication des décideurs qui ont déjà pris leurs décisions vers les gens qui vont la subir.
Autrement dit, on propose aux citoyens, aux habitants, de voir la maquette de l'autoroute une fois qu'on a décidé de faire passer l'autoroute, et ils ont juste à regarder la maquette et à dire oui, d'accord.
Voilà, donc la forme la plus active, c'est celle qui est finalement peut-être la plus insinueuse, c'est celle où on présente non pas une maquette, mais on en présente deux, et on demande soit par un vote, soit par un pseudo-débat où de toute manière tout est déjà bloqué, laquelle des deux maquettes on préfère. Donc effectivement, il y a une participation des gens dans un choix. On leur donne même la responsabilité de choisir, donc ils deviennent, ils portent du coup la responsabilité du choix qui est fait, mais c'est finalement un non-choix, puisque les propositions sont déjà là.
C'est à la fois participer aux délibérations, mais aussi participer à la définition en amont du cahier des charges, participer aux thématiques qui vont être soulevées lors de la réalisation d'un projet, qu'il s'agisse d'un projet d'aménagement d'infrastructures ou de petites décisions locales.
Mais toujours dans les limites imposées par les décideurs. Donc du coup, les limites peuvent être très très petites.
Au fond, dans ces deux premières catégories, actifs-passifs, ce sont les décideurs qui ont la main. En revanche, je crois que participation créative, c'est justement quand les habitants sont non seulement associés à une réflexion, mais qui sont eux-mêmes porteurs du projet.
Oui, donc là on est sur un système où on a non plus une hiérarchie notamment du pouvoir de décision, et qu'on essaye de le répartir entre trois entités. Donc il y en a deux qui existent actuellement, qui sont la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, et qu'on essaye d'impliquer ou d'imposer une maîtrise d'usage.
Alors est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage?
La maîtrise d'ouvrage, c'est le commanditaire du projet. Il établit un cahier des charges et définit une équipe de maîtrise d'œuvre qui est en charge, à partir de toutes ces contraintes, de concevoir et d'organiser la construction du bâtiment ou du projet concerné. Et la maîtrise d'usage, qui est aujourd'hui très absente de tous ces processus, ce sont les utilisateurs finaux qui ont l'expertise en fait sur l'usage au quotidien, les déplacements, la vie des lieux qui y sont construits.
Ce regard sur les processus de participation, participation active, passive et créative, vous avez décidé de les mettre en œuvre à travers un périple que vous intitulez « Détour de France ».
Il y a une forme de promotion de cette maîtrise d'usage qui est un peu le fond de notre Détour de France, d'aller voir tous les gens, tous les collectifs, les associations qui pratiquent déjà ce genre de... d'activité. On essaye de faire d'établir une sorte de recensement de tout ce mouvement, et c'est aussi l'occasion pour nous de prendre une année, de pouvoir faire des projets un peu partout.
Du coup, on a de multiples projets, vu qu'on se déplace et qu'on va dans différentes villes, et c'est l'occasion pour nous en fait d'expérimenter ces formes de participation créative, parce que pour le moment c'est des pratiques qui sont assez jeunes, qui sont pas très répandues, il n'y a pas de théorie, de recette miracle. Pour nous, c'est une occasion pendant un an de se donner les moyens de tester des choses, de voir ce qui marche, ce qui marche moins, et de prendre du recul par rapport à ça, et d'en tirer des conclusions, de faire avancer.
Là, vous trouvez un petit bout de bois.
Oh là, je vais glisser comme ça. Bien. Mais il te faut encore trois planches, Alain. Et trois petites planches comme ça, là. Et on peut faire un peu chemin.
Participation, c'est un mot qu'on voit partout aujourd'hui. Il commence pas un petit peu à vous gonfler?
Donc c'est un terme qui est banni de nos réunions. Donc quiconque emploie le terme de participation est soumis à une pénalité. Donc on peut pas. Donc effectivement, on en parle. On en a toutes les sauces. Donc on sait plus trop ce que ça veut dire. On pourrait peut-être plus employer le terme de collaboration, qu'on trouve un peu plus juste.
Assez connoté aussi.
Okay. Voilà, donc deux points. Effectivement, donc on essaye de voir le. Alors je veux dire vivre ensemble, mais c'est aussi connoté. Il y a plein de.
Les derniers avec qui on a passé du temps, c'était les arpenteurs qui parlent plus de capacitation, donc dans le sens plutôt que simplement prétendre faire participer des gens à un projet. Eux, ce qu'ils se fixent comme objectif, c'est qu'à la fin, il y en a qui ont appris et qui savent faire.
Une notion importante, moi, je trouve, c'est la convivialité. La convivialité et le faire ensemble. Avec ça, déjà, c'est déjà pas mal.
13 ans d'asservissement au salaire. être médisant, qui ait perdu trop de temps. J'ai démonté toutes les ficelles de leur culture d'entreprise. Et à juste titre, au quotidien, sans relâche, je méprise. Participation au bénéfice du doute. On est gros système.
Une année de voyage tout autour de la France, ça a, j'imagine, commencé par Strasbourg, qui est la ville où vous avez terminé vos études. Comment est-ce que vous avez choisi les étapes de ce parcours ?
Ça s'est fait d'abord par rapport à tous les collectifs qui ont des démarches similaires ou qui s'en rapprochent. Donc ce Tour de France, c'est vraiment dans l'esprit du compagnonnage. Donc on considère qu'on est encore en formation. Je pense beaucoup plein de convictions, mais on a très peu de certitudes. Donc on est là pour apprendre de tous ces gens qui pratiquent. Donc ensuite, on a établi la carte pour essayer d'aller voir un peu tout le monde.
Bah, on a commencé donc à Strasbourg, on est resté pour préparer le Tour de France et faire quelques projets. Et du coup, on a occupé un jardin public qui avait ce statut, mais qui, dans la pratique, n'en était pas un. C'était un grand carré d'herbe qui servait à la fois de raccourci pour le cheminement piéton et de canicite pour les propriétaires de chiens du quartier. Du coup, on a proposé d'installer une sorte de grand meuble qui cadrait un peu le parc. C'est une sorte de grande bande en bois qui accueille une balançoire, un barbecue, un punching ball, des assises et des espaces plantés. Et du coup, tout ce meuble a été créé avec des matériaux qu'on a récoltés dans le quartier. Notre entrée dans ce projet, c'était de faire une récolte avec un mégaphone et le camion et d'aller dans les caves des gens pour récupérer tout le bois qu'ils pouvaient nous donner.
Et donc déjà, on avait identifié des publics différents qui étaient autour de ce site. Donc il y avait une association de jardins partagés qui était en train de se lancer, une résidence d'artistes juste à côté, des jeunes qui jouent au foot au City Stade. Et donc l'idée, c'était un petit peu de réunir un peu de chacun pour produire quelque chose ensemble qui puisse après servir à tous.
En fait, la stratégie de projet qu'on essaye de mettre en place à chaque fois, c'est d'aller dans un premier temps rencontrer toutes les personnes qui peuvent distribuer la parole. Donc ça peut être les présidents de CIQ, ça peut être les différentes associations du coin, ça peut être les centres sociaux qui peuvent faire relais auprès de la population. Mais notre mode d'action, c'est quand même de s'installer à un endroit et de déballer tout le matos et d'ensuite de faire.
Et c'est en faisant ensemble que aussi la parole se libère. Il y a une sorte d'aller-retour comme ça.
Donc on rêve d'avoir des animaux dans le quartier. Donc là, j'ai rêvé que j'étais dans un train magique qui s'envolait au-dessus des nuages, sur la voie ferrée.
Celui-là, il est bien. C'est changer le péage en ville en villa gratuite et le louer sera payé par notre assureur. Échanger la gare en piscine et restaurant gastronomique.
L'olivier nous gêne pour faire des passes en profondeur au foot. Ah, ensuite, il y avait un autre thème qui s'intitulait « À découvrir ». Donc on demandait aux gens d'imaginer quel endroit ils pouvaient faire découvrir à quelqu'un qui ne connaissait pas le quartier. Là, il y avait par exemple « Avant, il n'y avait que des châteaux. Maintenant, il ne reste que les portes d'entrée et l'écurie. Dans les sous-sols des Égalades, coule encore une source. » Faire visiter les jardins. Et il y avait un dernier thème qui faisait plus appel à du vécu, des choses un peu insolites, qui s'appelait bêtises. J'ai fait tomber mon sandwich sur un chien d'un homme. Qu'est-ce qu'on peut dire de...
Jeter des crêpes par la fenêtre chez ma meilleure amie. En fait, il y a plein de choses dans ce thème bêtises. Quand ils parlent qu'ils ont caillassé la police de tel endroit, c'est des choses qui nous apprennent énormément sur la manière dont est configuré le territoire.
D'autres moments, d'autres étapes de ce parcours, de ce détour de France. Donc peut-être les grands moments et puis les moments peu chers de ce détour de France.
Alors un grand moment qu'on a eu, c'était un projet qu'on a fait à Bucéole en novembre. Alors Bucéole, c'est un petit village juste à côté de Clermont-Ferrand. Et c'était un super moment parce que c'était un projet un peu atypique. C'était notre premier projet vraiment rural. Il y avait 180 habitants et on avait très peur de se retrouver tout seul dans la neige. Contre nos attentes et nos a priori, il y a eu beaucoup d'échanges, de participation. Et on a réinvesti les anciens lieux de convivialité du village, le four à pain, le lavoir et une cabine téléphonique. On les a transformés en un bar, une piscine pour le lavoir et la cabine téléphonique en bibliothèque.
Et le pire ? Le pire, c'est en ce moment, en fait.
C'est à Marseille.
C'est chez Radio Grenouille.
On n'est pas très bien, là.
On peut parler de Marseille un peu, parce que c'est quand même... Une... En tout cas, on est en plein dedans, là, donc c'est pas évident. Mais en tout cas, là aussi, on touche des limites de nos pratiques. Et là, on se rend compte qu'il y a toute une série d'acteurs qu'il faut impliquer ou qui, en tout cas, n'ont pas le même enthousiasme que nous à ce genre de projet. Enfin là, ça se passerait bien, c'est juste sur des questions d'autorisation, les logiques des bailleurs ou les logiques des municipalités sont pas les mêmes que les nôtres, et donc on est sur des temporalités qui concordent pas forcément.
Ouais. Et en plus, j'imagine que les logiques des municipalités sont très différentes selon les municipalités elles-mêmes. Est-ce que vous avez constaté dans ce détour de France des pratiques, des attitudes, des postures de la part des municipalités qui étaient vraiment très différentes, voire divergentes les unes des autres ?
Je pense qu'il y a vraiment une pratique très étonnante. Là, on a recherché des subventions pour intervenir, financer des projets. On se rend compte qu'il y a des villes dans lesquelles il faut aller rencontrer, par exemple, tous les membres des jurys pour pouvoir expliquer individuellement notre projet afin qu'il soit reçu. Et il y a des villes dans lesquelles, au contraire, on nous dit très honnêtement que c'est une structure... une décision honnête et démocratique et qu'on n'a pas à faire un travail de lobbying.
En tout cas, ce sur quoi on est, c'est qu'il y a quand même la question du pouvoir qui est primordiale. Et donc à partir du moment où on demande à des gens de partager leur pouvoir, il y a forcément des réticences. Alors il y en a qui l'acceptent plus parce qu'ils ont plus de convictions, il y en a pour qui c'est un peu compliqué d'assimiler.
Et je dois dire que les valeurs qu'on défend, elles sont relativement apolitiques. On traite avec des mairies de droite et des mairies de gauche. Et
Non, je pense que justement, c'est éminemment politique. Mais je pense que justement, on agit sur un terrain qui est le plus politique du monde, puisqu'il concerne tout le monde et que les politiques prennent les décisions sur ce terrain.
Alors, public. Alors justement, dans les villes que vous traversez, qui vous rencontrez finalement en matière de représentants du politique au sens très large ? C'est l'élu que vous rencontrez ? Ou bien est-ce que ce sont les services techniques, services de l'urbanisme et de l'habitat ?
Bon, on essaye d'aller voir un peu tout le monde parce que tous les points de vue nous intéressent. On veut participer à la construction globale de la ville, donc c'est important d'aller rencontrer tous les différents acteurs.
Mais pour nous, le projet idéal, c'est un chantier qui est ouvert et un chantier qui devient un lieu d'événement et un lieu de discussion autour de la ville. Donc on a eu l'occasion de faire ça cet été à Saint-Étienne. Et donc le lieu devient un forum. Et nous, on invite beaucoup de gens à discuter autour de ça. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup les politiciens.
Au fond, ce qui vous intéresse le plus, c'est cette discussion-là. Je ne veux pas dire pour autant que ce que vous réalisez, c'est un prétexte. C'est pas ça. Hein. Mais au fond, ce qui est vraiment le plus intéressant pour vous, c'est justement ce dialogue que le projet que vous menez permet d'engager.
En tout cas, on s'en sert comme un bon outil pour penser ensemble.
C'est où le bâton ? Je fais une chaise tordue un peu. Pour qu'elle ait plus allongée. Pour qu'on ait plus à l'aise dedans. Plus à l'aise. Je vais la clouer avec un marteau.
Alors des projets, Strasbourg, Grenoble et bien d'autres encore, on va pas pouvoir tous les aborder et tous les détailler, mais en tout cas dans chaque projet, des réalisations qui peuvent prendre, on l'a vu, la forme d'un mobilier urbain, qui peuvent prendre aussi parfois la forme d'un événement, d'une rencontre, une grande diversité donc d'approches et de projets. Est-ce que vous gardez des traces de l'ensemble de ce parcours, de ce travail, et quel type de traces, au fond, vous gardez de ce détour de France ?
On mène vraiment deux routes différentes là pendant notre détour de France. Il y a une route, c'est une succession de projets pour nous, où on apprend, on rebondit, on se casse la gueule, on se relève. Il y a ça, donc ça c'est vraiment nous notre compagnonnage où on apprend de notre côté. en collaboration avec des gens, mais ça c'est vraiment notre expérience, avec la gestion du groupe à 12, réussir à s'entendre, à se mettre d'accord sur des idées de projet. Et il y a tout le travail en parallèle de diffusion et de démocratisation du thème de recherche sur lequel on est, la fabrique citoyenne de la ville, donc c'est le nom qu'on a mis dessus. Et donc ça, je pense que le côté démocratique de la diffusion des résumés qu'on pourra produire, donc qui sera peut-être sous forme d'un film, c'est sûr, il y aura un film, une plateforme internet, un bouquin, et éventuellement une rencontre aussi, qui aurait lieu plus tard. Et donc je pense que le côté démocratique de ces supports-là, on va les penser le plus ouvert possible et le plus grand public possible, mais ça va être sur les moyens de diffusion qu'on va pouvoir trouver. Donc si le bouquin il reste dans les CAUE ou les lieux exclusifs d'architecture ou s'il peut un petit peu sortir de ce cadre-là.
Et après, si lorsqu'on a des publications dans la presse spécialisée, puisqu'on commence à en avoir, c'est beaucoup sur l'objet qu'on produit. Donc peut-être moins sur le processus que sur l'objet.
Alors que pourtant, c'est souvent le processus qui est plus intéressant dans ces démarches que l'objet lui-même. Je vous propose qu'on parle un petit peu de Marseille et de ce que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes arrivé il y a quelques jours à peine. Et enfin, j'imagine qu'il y a des projets, des intentions qui commencent à se dessiner un peu précisément. Alors qu'est-ce que vous avez l'intention de développer ici et peut-être d'abord où finalement dans Marseille ?
Alors à Marseille, du coup, on travaille parce qu'on a été invité par Lady Chat, qui a un grand projet qui s'appelle la Rue des Cités, qui relie la cité du Castellas avec la cité des Égalades, la cité des Arts de la Rue et la gare Saint-Joseph du Castellas. Et donc, cette rue est une rue imaginaire qu'elle a inventée. Et dans ce cadre-là, on vient deux semaines faire un temps fort, une intervention autour de cette rue.
Donc moi c'est Laetitia Cordier. Alors en fait, comment j'ai rencontré le collectif ETC, c'était la première fois à Saint-Étienne. Donc pendant leur projet, faites-vous une place qu'ils avaient mis en place, c'est le cas de le dire, pendant un mois, deux mois suite au concours qu'ils avaient remporté avec la ville. Donc en fait ils m'ont invité à venir, donc cette fois-ci c'était moi qui t'ai invité à venir travailler à leur côté au niveau graphique pour apporter un peu une écriture graphique sur cette place, aux côtés de Bérangère qui est aussi graphiste. Et donc moi je suis venue là-bas en estafette avec mon labo mobile de Marseille donc jusqu'à Saint-Étienne. Et je suis restée trois semaines avec eux pour découvrir cette friche et en faire ensuite une place avec les habitants. Voilà, et récolter une parole que j'ai retranscrite avec Bérangère sur les murs de la place, entre autres. Donc un ancien hôtel qui était désaffecté et un restaurant également abandonné. Voilà. Alors ensuite, donc après avoir été invité par le collectif, c'était à mon tour de les inviter sur le terrain sur lequel je développais mon projet dans le quartier Nord, qui était la rue des Cités. Un projet que j'ai développé au sein de ma formation à la Cité des Arts de la Rue. Donc peut-être expliquer rapidement, très rapidement le projet. L'idée c'était justement de sortir de ce lieu qui est la Cité des Arts de la Rue, un peu passer au-delà des murs pour aller à la rencontre du voisinage. Donc j'ai découvert les différentes cités, donc la cité des Égalades qui est voisine, qui est vraiment juxtaposée à la cité des Arts de la Rue. Et ensuite, au fil de mes découvertes, de mes pérégrinations, je crois qu'on dit, de mes marches à travers le territoire, j'ai découvert les cités par derrière, le Castellas, et ensuite cette gare. Et donc mon envie à partir de là, c'était vraiment de connecter la cité des Arts de la Rue à cette gare en passant par les cités entre. Et ensuite, à partir de cette découverte à pied, j'ai voulu construire mon propre outil de rencontre et de découverte et de collectage d'histoires sur ce territoire. Et c'est comme ça que j'ai conçu le laboratoire mobile, qui est en fait une estafette des années 70 que j'ai complètement réhabilité, réaménagé en studio graphique. C'était une manière pour moi de mettre un savoir-faire, mon savoir-faire, au service d'un territoire. Voilà. Moi, avant tout, ce qui est important pour moi, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont dans un espace qui leur appartient, tout autant que, au même titre que tous les autres habitants, et qu'ils peuvent y poser une parole, qu'ils peuvent juste oser dire ce qu'ils voudraient y voir ou comment ils voudraient y vivre. Et voilà. Mon rôle par rapport à tout ça, c'est juste de porter cette parole.
Plusieurs endroits où on a posé des chaises fabriquées ici. Dans plusieurs endroits. J'aimerais prendre le train pour aller partout et revenir et je raconterai ce que j'ai vu.
J'aimerais qu'il y ait des jouets.
Je rêve d'une maison tranquille avec une piscine au soleil.
J'ai jeté 4 stylos par la fenêtre.
Dans ma cabine, ça j'étais comme dans ma maison.
Ça m'interpelle, mais je ne sais pas comment comprendre ça.
Dans l'herbe.
J'aimerais grimper dans un arbre. Ça, c'est quand même fort.
Un endroit de vente de jouets gratuits.
Je voudrais aller en Algérie.
Du 13e étage, on voit les montagnes. Dans ma cabane, j'étais comme dans ma maison.
C'est intéressant aussi. J'ai envie de faire du vélo. Qu'il y ait plus de magasins. C'est intéressant par rapport à l'isolement de l'habitat, par rapport au commerce. J'ai fait tomber la bague de ma mère en or dans les égouts. Bon. Que les jeunes arrêtent de vendre de la drogue dans les blocs. Bon, ça aurait été un problème, effectivement. Je voudrais que le Castellas... Bon, je sais pas. À que ces villas. McDo, à la place de la boucherie. Je sais pas si c'est halal ou pas. Voilà. Quelques-unes comme ça.
Donc tout le travail là, avec les chaises, donc on s'est déplacé dans cette rue des cités et ce qu'on a fait à chaque fois que les chaises ont été fabriquées, c'était on a amené les gens dans les endroits où ils voulaient positionner ces chaises et ensuite on réalisait une photo avec eux de l'endroit où ils étaient. Et donc là il y a une sorte de restitution qu'on a proposé, on est resté sur cette idée de carte postale telle qu'on l'avait imaginée pour ces chaises. Donc avec toute cette série de photos et des témoignages qu'on a recueillis, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes que ceux qui sont en parallèle avec la photo, mais qui permettent un regard croisé sur un territoire. On a ces cartes postales qui les gens peuvent les récupérer, donc elles continueront de voyager dans le quartier. Donc là on est sur le parc de l'Oasis, juste au-dessus du parc de l'Oasis, qui est un parc public qui est entre la cité du Castellas et la cité des Égalades. Et donc on est sur cette rue des cités qui part de la cité des Arts de la Rue et qui va jusqu'à la gare Saint-Joseph-le-Castellas qui est derrière la cité. Et donc on a préparé, on a mis en place les ateliers qu'on a développés toute la semaine, qui sont des ateliers de fabrication de chaises, de mobilier. Et on a aussi une carte qui représente le quartier sur lesquels les gens peuvent répondre aux différents thèmes qui leur sont proposés.
Donc on a, avec cet atelier ambulant de fabrication de chaises, on s'est déplacé suivant différents endroits sur ce parcours de la rue des Cités. C'est un parcours imaginaire entre ces différents endroits sur lesquels travaille l'artiste Laetitia Cordier aux Arts de la Rue.
Et donc nous, là, dans un premier temps, on a dit, nous, là, les 12 architectes, on va, 11 architectes et une graphiste, on débarque et on propose de se localiser. Donc on avait choisi le Castellas. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte, on s'est mis assez tard et quand on a voulu contacter le bailleur, c'était trop tard, donc on n'a pas pu avoir les autorisations pour venir investir l'espace public et proposer un chantier dans la rue. Donc on a dû rebondir, trouver une autre solution.
Alors moi j'ai une position assez...
Clédicha, Laetitia Cordier.
Un peu double, c'est-à-dire que la rue des Cités c'est une démarche autonome. Il n'y avait pas de commande derrière, pas de besoin, pas de... J'ai répondu à une seule chose, un instinct, qui était de sortir de cette rue des Cités et de l'ouvrir au territoire autour. À côté de ça, je travaille bien sûr aussi en résidence chez Descours et Cabot dans le cadre de Marseille 2013 et aussi dans un groupe de recherche qui s'appelle Civic City, également dans le cadre de Marseille 2013. Bah, on s'est rendu compte justement en travaillant le long de la rue des Cités que c'était pas si simple, qu'il y avait plein de barrières administratives, plein de barrières politiques, qu'il fallait non seulement des autorisations évidemment pour faire place dans l'espace public, mais aussi un petit coup de pouce politique pour pouvoir faire avancer les choses. Et la façon dont peuvent avancer mes recherches chez Descours et Cabot ou Civic City est bien différente parce que j'ai ce soutien politique qu'on n'a pas eu pour la rue des Cités pour mettre en place ce qu'on voulait mettre en place au début et qui a beaucoup évolué par rapport à ça, par rapport à toutes les barrières qu'on n'a pas pu franchir. Et bon, on a dû réadapter ce projet parce qu'on n'avait pas peut-être l'étiquette Marseille 2013 qui pouvait nous aider à franchir ces barrières.
Parfois, ce recours aux politiques pour avoir un coup de pouce pour que le projet se réalise, ça expose à un risque d'instrumentalisation. Mmh. On a longtemps, les artistes eux-mêmes ont décrié l'idée qu'ils n'étaient pas des pompiers des cités à problème et qu'ils ne voulaient pas non plus être utilisés pour des choses qui ne relevaient pas de leur art et de leur pratique. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, je trouve ça assez juste. C'est-à-dire que cette sensation souvent d'être, comme vous dites, un pansement social, parce que l'artiste sait parler aux habitants, donc qu'on soit utilisé pour pouvoir dialoguer avec les habitants et faire remonter cette parole aux politiques. C'est pour ça que notre rôle est très, très, très ambigu, parce que moi, en tant que graphiste, par exemple, bah, c'est pas seulement du graphisme, quoi. C'est un rôle social que l'on joue, et presque un rôle d'animation sociale, parfois. Et c'est là où le rôle de l'artiste, sa parole, la parole qu'il a, lui, en tant qu'artiste, est parfois disparaît un peu sous ce rôle de créateur de liens sociaux. Et donc il faut savoir faire la part des choses, se dire qu'est-ce que j'ai à dire moi aussi en tant qu'artiste sur ce territoire. J'ai une parole qui ne doit pas être effacée et mangée par les impératifs sociaux. Donc le choix de travailler en espace public vient de là, c'est d'avoir la liberté de s'exprimer. Mais on se rend compte très vite qu'il y a des limites quand même à cette expression dans l'espace public, parce que à cause de toutes ces normes et ces barrières, ces barrières invisibles qui existent quand même malgré tout.
On a enchaîné sur une série de projets. Et donc là, on commence à partir de mercredi sur un nouveau projet. Donc c'est un projet qu'on pourrait appeler les chaises voyageuses. Bon, donc on est encore en train de le fignoler, mais l'idée c'est de proposer dans la rue, dans plusieurs espaces, un atelier de menuiserie où on va fabriquer des chaises en bois. On est encore en train de les dessiner, c'est pour dans 4 jours, on est bien.
Donc chaque jour, on aménageait cet atelier de chaises, donc, qui est constitué de 4 établis sur lesquels sont fixés, donc qu'on a conçu et fabriqué à l'avance, des guides de façon à pouvoir inviter aisément les gens qui passent à fabriquer leurs chaises. Donc on leur présente une planche de bois de 4 mètres de long sur 20 cm de large, et du coup on invite les gens à scier la planche en plusieurs morceaux et ensuite de les assembler. Ensuite, on leur demandait de réfléchir à un endroit où ils pouvaient placer la chaise. Et du coup, ça nous amenait petit à petit à des informations plus sur des lieux, sur cette rue des Cités. Et donc ensuite, on essayait de faire un parallèle avec la carte, une grande carte qu'on avait dessinée du quartier.
Alan, c'est ouvert, Walid.
Là, il y a un petit blessé là.
Je vais ouvrir un point.
Ça arrive.
Ah non,
Walid.
J'ai pas de point. Hein.
Voilà, il va falloir amputer là, je crois.
Ah non.
Appuie fort. Hein.
Ah, je dégage.
C'est rien, c'est une petite coupure là. C'est...
Petite coupure, je crois pas.
Si, ça va.
Mais il y a les bras libres.
Tiens, Walid, ça pique. Ouh là là.
Vas-y, mets de l'eau.
Non, ça pique.
Si, il faut mettre de l'eau.
Ça pique.
Encore.
Ça pique. Clac, clac.
Aïe, aïe, aïe.
Il faut arrêter l'hémorragie, hein.
tu vas pas mourir, lui, t'inquiète.
Sinon, tu vas perdre tout ton sang. On fait des chaises, des tables.
Pour le quartier.
Ouais, pour le quartier, on les
prend. Pour les mémés.
On prend des planches de bois avec la scie, le marteau, une scieuse.
C'est pas comment, une scieuse là.
Visseuse. Après, on fait des chaises, des bains. Ouais, ça dépend. Il y en a qui les mettent au parc, là-bas, de partout. On s'y là sur les traits, où il y a les traits. Après, il y a deux côtés, on doit les couper. Après, ça, c'est pour. Comment ça s'appelle déjà là, comme ça. Les salles, comme ça là.
Quoi ?
Ouais, voilà, ça là, les trucs comme ça.
Les triangles.
Ouais, ça, après, on doit les couper. Les chutes, on les coupe. Pour qu'après, ça peut tenir par terre. Après, là, je suis en train d'en faire une là-bas, moi. Après, je les fais pencher, la mienne. Et après, là, voilà. Il y en a qui peuvent les faire normal, comme il y en a qui peuvent les trafiquer. Oui, et aussi, on peut écrire là. Il y a des côtés exprès où on peut écrire. On écrit le numéro, c'est là combien. Après, on peut écrire, exemple, ne pas casser la chaise ou d'autres trucs.
Donc l'idée pour nous, là, c'est pour rentrer dans ce territoire et comprendre un petit peu cette rue des cités et quel sens elle peut avoir, on va se mettre un petit peu à différents endroits et essayer de comprendre un petit peu en discutant avec les gens, en faisant ces chaises, de découvrir le territoire à travers le voyage de ces chaises.
Comment est-ce que vous trouvez l'économie de ces projets ?
Globalement, on ne la trouve pas. Nous, on s'est donné une année vraiment pour développer des outils et pour tester des choses. C'est aussi un des enjeux de ce projet, d'essayer de voir comment on peut faire en sorte que ça fonctionne.
Et aussi, par la même occasion, choisir une ville où on a l'envie de s'implanter pour travailler, en se laissant la possibilité ouverte d'aller faire des projets un petit peu partout, comme on le fait maintenant.
On est bien mort là.
On va au revoir, peut-être à une prochaine. Au
revoir. Tous ensemble, ou dans un an ou dans quelques mois, votre collectif risque de splitter et chacun va se retrouver à droite, à gauche, en fonction de ses inclinations?
Ben ouais.
ça veut dire quoi, ouais?
Ben tous ensemble, ouais. Ah. Non, c'est l'utopie, c'est d'essayer de créer quelque chose qui fonctionne tous ensemble. Ça nous donne envie de continuer par la suite et de concrétiser ça. Et de, voilà.
Ben c'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, de pouvoir continuer comme ça. It's just a prerequisite. This is a hard tissa, patient, prerequisite. Vous écoutiez Participation, etc., une émission dans la thématique utilité publique, sur l'antenne des 3-8 jusqu'au 8 avril 2012. Prochaine émission dans cette thématique demain jeudi à 9h30. Rediffusion de la messe basse consacrée aux indignés marseillais. Et à 18h, démocratie directe. Rediffusion d'un plateau enregistré en octobre dernier à Bordeaux dans le cadre d'Evento, Biennale internationale d'art urbain. Toutes les émissions de la thématique sont en écoute sur radiogrenouille.com. Le collectif ETC poursuit son périple. Ils sont justement aujourd'hui à Bordeaux. Et vous pouvez suivre leur parcours et leur réalisation sur leur site www.collectifetc.com.